hors champ. Bonjour à toutes et à tous, hors champ aujourd'hui avec Bertrand Belin. D'abord, ce générique, qu'en pensez-vous, Bertrand Belin, vous qui êtes musicien ?
J'étais justement en train de l'écouter attentivement et ça me faisait rêver. J'étais en train de penser au cinéma de Dominique Choisy en particulier. Et j'aime bien ces arpèges, il y a une sorte de partita qui se cache derrière, comme ça, une mélodie ininterrompue, très beau.
Comment est venue la guitare ? C'est à l'adolescence, comme souvent les jeunes
Oui, c'est ça. Enfin, j'ai une
au lycée,
un peu
vous avez été repéré, non ?
Non. J'ai voulu jouer de la guitare depuis tout petit, depuis 5, 6 ans, 7 ans, je voulais une guitare. J'en ai eu une à 13 ans, abandonnée par mon grand frère à la maison à l'occasion d'un de ses passages. Et puis j'ai commencé comme ça à apprendre avec les copains, quoi. Enfin, avec un ami notamment, Denis Le Buet, qui jouait de l'accordéon, qui faisait du bal, qui était très jeune, mais déjà un virtuose, qui avait commencé à 6, 7 ans lui aussi. Sous le patronage de son paternel et qui était mon ami, j'étais très très admiratif de son talent. Je trouve ça formidable. Et puis il est devenu mon professeur de musique, quoi.
Donc à partir de quand vous avez décidé que de cette vocation vous allez faire une profession ?
Une profession, bon, je ne sais pas. À l'adolescence, vers 13-14 ans, quand j'ai commencé, j'ai tout de suite joué dans les bistrots, j'ai tout de suite mis à profit les quelques accords que je connaissais avec dans le groupe de mon grand frère et puis dans un groupe que j'avais formé moi-même.
Ah, parce que le grand frère aussi ?
Oui, mon grand frère a pris la guitare.
Il avait repris sa guitare.
Oui, il a commencé un an avant moi, la guitare, quoi. Et puis, on s'est retrouvés à faire un groupe ensemble. On était vraiment des adolescents, quoi. À part Loulou, le batteur, qui était un plâtrier de la presqu'île, qui lui,
donc ça, c'était à Quiberon.
45 ans. Ouais, c'était à Quiberon, ouais. Non, j'ai décidé, je sais pas, j'ai pas vraiment, j'ai jamais décidé. À un moment donné, je me suis dit simplement, j'avais déjà 25, 26, 20, 24, 27 ans, je me suis dit, ça fait maintenant longtemps que je fais de la musique et que j'ai envie, de fait déjà 3-4 ans que je vivais de la musique, et je me dis, tiens, ça serait quand même intéressant d'essayer de faire en sorte que ça dure, pourquoi pas une vie, quoi. Mais avant, je cumulais les petits emplois, et les répétitions le soir, les quelques tournées et concerts, mais
la galère, quoi.
Disons que je pensais que c'était vraiment éphémère, quoi. J'ai longtemps cru que ça allait devoir s'arrêter un jour, et puis simplement, c'est vrai que tardivement, j'ai décidé que j'allais quand même essayer de m'accrocher et dans le métro, dans la rue. Enfin, j'ai passé l'hiver à essayer de faire avec des bouts de ficelle, et puis ça a pris, quoi.
Ben, on vous écoute dans Long Lundi.
Arrive l'homme au bout des pierres, long lundi, long devant. Tout ce qui le retient derrière, tout ce qui le tire devant. Tombé comme fruit à terre dans le feu des saisons. Sans oraison, soleil, un pied sur lui, pareil, chasseur, lion. Au bas, il coule une rivière. Et cheveux soleil, tenue serrée, serrée le long d'une lame, capitaine qui n'a jamais dit son nom. Arrive l'homme au bout de pierre, long le nid, long le
Alors, on vient d'entendre un extrait de votre album Hyper Nuit qui vous a fait connaître et reconnaître de la scène française comme auteur-compositeur. On a même dit que vous étiez un auteur qui régénérait la chanson française, Bertrand Belin. Enfin, ce qu'on peut entendre, c'est que vous êtes aussi écrivain. D'ailleurs, on reviendra sur le livre que vous avez publié aux éditions POL qui s'intitule « Requin ». Et que vous écrivez les textes de vos chansons et que ça ressemble plutôt à une sorte de prose poétique avec des paysages qui viennent à la mémoire quand on vous écoute et que vous ne cherchez pas à forcer la note, que vous ne cherchez pas à imposer quoi que ce soit, vous nous proposez un voyage.
Oui, c'est ça. Enfin, j'espère que s'impose. Moi, j'ai rien envie d'imposer, mais j'espère que s'impose, en tout cas, s'impose à l'auditeur la nécessité de recomposer les images à partir des mots qu'il entend et que du coup, il y a une démarche un peu active comme ça qui se met en place. C'est toujours le cas quand on écoute une chanson, mais c'est vrai que les miennes sont plutôt assez. On pourrait les qualifier d'assez énigmatiques, peut-être à première écoute comme ça. Et c'est vrai que, un peu à la manière d'un roman, quand on lit un roman, qu'il est question d'une maison ou d'une gare ou d'une route ou d'un, je ne sais pas, un bateau ou encore, je sais pas moi, un couloir de métro, on convoque des images, arrivent des images pour donner la chair comme ça au message qui nous est transmis par les caractères d'imprimerie sur le livre et qui compose la chair de l'espace dans lequel on doit se plonger, quoi, dans lequel l'auteur essaye de nous plonger. Pour moi, la chanson, ça fonctionne comme ça aussi. Donc, quand je parle d'un mur, je donne pas de détails, je dis pas combien de mètres il mesure, s'il est en ceci ou en cela. Les personnages sont toujours des silhouettes, ils n'ont pas de nom, on sait pas comment ils sont habillés, on n'a pas d'informations, de précisions sur ce qui pourrait être de l'ordre du particulier, quoi. C'est pas tant la chose particulière qui m'occupe quand j'écris des chansons que la chose symbolique, en fin de compte.
Ça part de quoi ? Parce que quand on écoute vos chansons, on imagine effectivement des paysages. Mmh. On pense à des poèmes. Il y a une tradition dans la chanson française de cette chanson non pas poétique ni poétisante, mais comme ça, qui associe l'imaginaire et qui nous fait partir à la dérive.
Oui. Bon, ça part de quoi ? Très souvent, de situations très simples, un individu, un autre, souvent des choses très, disons, vraiment un peu comme s'il s'agissait de l'ADN du monde dans lequel on est plongé, c'est-à-dire l'altérité, l'autre, soit un lieu, une température, quelque chose qui est vraiment les fondamentaux, disons, d'un plateau de théâtre presque. Il y a où, qui, comment. Combien, voilà, et avec ça on regarde un petit peu au-dessus, un peu à manière, un peu peut-être un peu un regard un peu comme ça surplombant, un peu comme si les choses étaient dans une boule à neige un peu, quoi, et on regarde un peu ce qui se passe, et puis comme ça les chansons ont plutôt à voir, disons qu'elles ne traitent pas d'un point de vue philosophique ou sociologique des sujets aussi vastes que la vengeance, le souvenir, que sais-je encore, mais bon, c'est toujours un peu des ensembles comme ça, quoi. Donc plutôt là, comment dire, un peu donné, un peu romancé, un peu ce qui pourrait se qualifier qu'on pourrait qualifier de condition de l'homme, quoi, en fin de compte. Sur cette chanson Long Lundi, c'est quelqu'un qui arrive à un point de l'espace et du temps qui est son point de l'espace et du temps, et tout ce qu'il précède et tout ce qui le devance est tombé dans le feu des saisons, on tombera dans le feu des saisons, et c'est ce point-là maintenant. Il y a le soleil qui appuie sur lui comme un chasseur pose le pied sur un lion. Il est terrassé, quoi. Il est terrassé dans un point de l'espace et du temps. Alors, je laisserai le soin aux, je sais pas, des gens plus qualifiés que moi de déplier, déployer ce que ça recouvre. Mais enfin, chez moi, ça procède de la transformation d'une sensation comme ça, presque une épiphanie parfois, placée devant le spectacle ahurissant du monde dans lequel je vis, hein, qu'il soit celui d'une branche qui s'agite dans le vent ou du train qui passe à toute allure alors que j'attends un autre, le prochain. Tout à coup, on est saisi, on dit ah, enfin, je suis au monde en fin de compte, quoi. Et à quoi ça ressemble d'être au monde ? Eh bien, à bien des choses. Alors, j'en choisis une au hasard, et puis j'en fais une petite scène qui devient parfois une chanson.
Vous êtes auteur, compositeur, guitariste, mais aussi violoniste.
Oui. Je joue du violon, disons, je sais plus si c'est De Vos qui disait ça, disons assez sommairement, quoi, hein, du violon sommaire. J'ai appris tout seul le violon, maintenant ça fait presque 20 ans que je joue, mais j'ai appris des airs traditionnels, surtout de quelques airs de ma région du sud de la Bretagne, du pays Vannetais, beaucoup d'airs d'Irlande aussi, l'Angleterre du Nord. Voilà, je joue de la musique folk au violon, quoi. En ce moment, je suis en train d'apprendre l'allemand de partita numéro 2 de Bach au violon, mais c'est un petit peu au-dessus de mon niveau, voire beaucoup même au-dessus de mon niveau, mais c'est pas grave, je me suis lancé quand même. Et c'était tellement difficile que mon violon est tombé par terre. Je vous parlais de violon, alors je vous raconte ça parce que ça fait 3 jours que c'est arrivé. Il est tombé. Bon, je mesure 1m83, ça fait quand même une petite hauteur pour un violon, c'est fragile. Mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot, je reprendrai la partita quand il sera réparé. Je joue du violon, j'aime beaucoup le violon, c'est un instrument que je joue pas du tout en public, que je joue soit chez moi, et parfois, il est vrai, j'en ai enregistré dans mes disques, et quelquefois aussi dans les pubs, pour aller dans quelques sessions avec les musiciens, notamment en Angleterre, quoi, à Sheffield, où je suis allé souvent. Mais enfin, je joue surtout seul, quoi.
Alors votre voix, elle vient d'où ? La première fois que je vous ai vu, c'était au théâtre.
Ah bon ?
Comme ça, je vous ai vu et vous étiez avec votre voix. Je ne savais pas que vous étiez musicien. Alors, elle vient d'où, cette voix ?
Moi, je ne saurais pas quoi répondre à cette question. C'est dingue, ça. En écoutant tout à l'heure la chanson « Long lundi », j'ai remarqué que j'avais une voix un peu plus aiguë, enfin plus haute ou plus mince ou quelque chose comme ça. Longtemps, j'ai eu la même voix que ma mère, qui chantait très 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 bien, qui avait une très belle voix.
Elle vous a appris à chanter, alors ?
Oui, j'ai chanté souvent avec elle quand j'étais petit, ouais.
Donc elle doit être contente que vous soyez devenu chanteur.
Oui, elle était très très contente.
Elle vient à vos concerts.
Malheureusement, elle n'est plus de ce monde, mais elle est peu venue, je crois qu'elle m'a vu 2 fois en concert, ouais. Mais enfin, elle est venue quand même. Bien sûr, elle était très fière. C'était une musicienne dans l'âme. Elle aimait beaucoup la musique. Elle chantait très très bien. Elle n'a jamais pratiqué d'instrument. Elle s'enorgueillissait d'avoir joué de l'harmonica étant jeune. C'était une de ses grandes... Sa sœur, d'ailleurs, ma tante, avait été chanteuse d'un groupe de rock dans les années 60 aussi. Ouais.
Il y a toute une tradition familiale.
Du côté de ma mère, oui, parce que mon grand-père était batteur lui-même. Il n'a pas évidemment fait carrière de la batterie, il n'a pas été musicien professionnel, il était taulier. Mais enfin, il avait ce qu'on appelait un jazz à l'époque, et il jouait avec son orchestre à Paris d'abord, puis à Nantes ensuite. Et ses 2 filles, il est vrai, étaient aussi des musiciennes comme ça, avec une approche très instinctive, hein. Donc voilà, j'ai chanté comme ça, j'ai longtemps eu la même voix que ma mère, je cherchais pas à la copier, mais disons que c'est assez fou, quoi. Disons que je pense que la physionomie de mon larynx, enfin, me permet de l'imiter, je peux très bien l'imiter, quoi, avoir la même voix qu'elle, quoi, c'est assez fou, quoi. Alors, bon,
Donc vous avez plusieurs voix.
Après, moi, j'ai voulu avoir ma voix quand même.
Mais ça veut dire quoi, avoir sa voix, justement?
Bah, avoir sa voix, c'est avoir sa voix. Il me semble que c'est avoir la voix, le son du propos qu'on porte, quoi. Il faut qu'il y ait entre le propos et le son un rapport de véhiculation qui soit, qui nous apparaisse comme une chose, disons, suffisamment exacte pour que l'on puisse ne pas avoir peur de ce qu'on dit.
On vous écoute dans Folle, Folle, Folle. Ça, c'est le dernier album.
Une pluie folle, folle, folle. Sous une pluie folle, folle, folle. La silhouette rentre enfin. La silhouette rentre enfin. Sous une pluie folle, folle, folle.
Où va une chanson ?
Elle va dans l'avenir, elle va dans le temps, elle va dans la mémoire de celui qui l'écoute. Elle s'y love, prête à ressurgir, à en ressurgir à tout moment, soit parce qu'elle passe à la radio ou on l'entend chez un ami, soit parce que simplement dans le bruit de la ville, il y a un petit incident, quelque chose qui vous la remet en mémoire. Donc la chanson, elle se rue vers demain.
Dans chacun de vos albums, là c'est le dernier album, Capot à l'air, il y a toujours un morceau qui déraille, enfin qui n'est pas policé, qui n'est pas, d'ailleurs vous n'êtes pas quelqu'un qui est policé et qui appartenait au monde un peu mercantile d'un certain showbiz. Et là, dans le dernier, il y a « Je parle en fou ». Et il y a toujours, et là on vient de l'entendre dans Folle, 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 il y a toujours un moment où vous prenez la langue comme une espèce de nœud et puis vous la mettez en écolalie.
Oui, oui, c'est vrai. Mais parce qu'il m'est apparu que pour dire autre chose, il fallait employer d'autres moyens, quoi. que la syntaxe traditionnelle dans la chanson. Bon, c'est aussi, c'est vrai, c'est aussi une certaine disposition aussi dans la vie quotidienne à pouvoir ou ne pas pouvoir s'attabler à une table de travail et y rester 10 heures pour fabriquer des alexandrins et fabriquer des octosyllabes qui seraient impeccables. Ce que bien des gens pratiquent, d'ailleurs avec bonheur, puisque j'aime bien les entendre parfois. Moi, j'essaye de concasser un peu les mots, de taper dessus avec un marteau comme si c'était des noix, quoi. Et puis de les mettre dans une forme d'ordre ou qui s'apparenterait comme si c'était en référence à une mathématique qu'on connaît pas. Essayer de accidenter un peu la syntaxe, parfois faire des fautes volontaires de grammaire, ça m'est arrivé aussi. Parce que je trouve que ça fait dire à la langue quelque chose d'autre, ça peut lui faire dire autre chose, ça la fait exister à nos oreilles comme une forme rafraîchie du langage dont on fait usage quotidiennement sans même y penser. Moi, j'aime bien ça, l'idée de donner, d'essayer de lustrer, de donner un air neuf à des choses anciennes et vieilles, comme un pronom, hein, comme un nom très simple, comme une pelle, par exemple. Et c'est vrai que la répétition, c'est un moyen assez efficace de vider les mots de leur sens, a priori de leur contenu, disons, voilà, de leur polysémie même, et puis de les regorger d'une certaine fraîcheur de la chose qui avait déjà à l'origine, mais qui se retrouve après un petit tour, une petite cabriole à l'extérieur, retrouve le mot, retrouve l'enveloppe du mot qui était qu'une chose sonore, une chose plastique, avec en lui donnant un nouveau rebond.
Comme vous avez plusieurs voix, Bertrand Belin, vous avez plusieurs types d'écriture. On a parlé tout à l'heure de votre rôle d'écrivain. Vous êtes écrivain aussi quand vous écrivez des chansons. Vous avez publié un livre qui s'intitule « Requin ». Je vais en lire un court extrait. Cet extrait est au début du bouquin. Voici ce que vous écrivez. « Pour conduire un homme à mourir, il suffit souvent d'un rien, ce rien pouvant bien être n'importe quoi. Rien comme lorsque les portes donnant sur l'ascenseur s'ouvrent sur rien. » On entre comme si de rien n'était, comme on ferait un pas sur un chemin dans l'Ariège, un trou dans le déroulement logique des événements que la confiance et l'habitude masquaient. Pour ce qui est de vivre, nous sommes toujours dans ce rapport de confiance aveugle. Alors que nous avons été informés par les journaux télévisés que cela se pouvait fort bien, nous ne tenons pas compte de la probabilité qu'il ne se trouve aucune nacelle au moment où nous élançons entre les portes coulissantes. S'il n'est pas saugrenu de voir dans cette attitude un reliquat de fatalisme s'exprimant dans les plis du quotidien, ce serait en revanche de l'angélisme que d'y déceler du courage ou de la témérité. Ce n'est pas ça, il y a simplement dans tout cela une immense part d'inconséquence. Et on sent bien que l'influence du nihilisme, l'influence de l'existentialisme plane à l'intérieur de votre écriture, que ça soit dans le registre de la chanson ou même dans la littérature.
Oui, on peut le dire ça, bien sûr, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Simplement, il est pas prononcé ou instrumentalisé pour. Comme modèle de compréhension du monde, mais simplement comme un des modèles de compréhension du monde. Il est remis en cause assez souvent dans mes chansons en particulier, puisque vous savez que je n'ai pas écrit beaucoup de livres, c'est mon premier roman. Mais cette question-là s'accorde avec le caractère du personnage principal, c'est pourquoi il a cette vision sur le monde. Mais je dirais pas que ça se retrouve vraiment dans
mes
chansons.
Mais pourquoi est-il si désespéré, ce personnage, qui vous ressemble? Enfin, il a à peu près le même âge que vous.
Oui, ouais. Il porte un autre nom. Il est marié, il est père de famille. C'est pas tout à fait moi quand même.
Vous êtes peut-être marié, non ?
Non. Je suis ni marié ni père de famille. Oui, bien sûr, évidemment, il y a évidemment un pont, une canalisation, quelque chose qui fait que entre mon personnage principal et moi, il y a des liens. Ça, c'est indéniable. Cette désespérance, en revanche, du personnage de Marc Blanchet dans le roman, n'est pas une chose chez moi qui est acceptée comme telle. Quoi. Lui, il en fait vraiment, disons, presque une forme de
mode
d'identité,
de vie.
D'identité presque. Voilà, c'est comme ça. Puis si les autres comprennent pas qu'il est désespéré, c'est vraiment parce que ce sont des imbéciles, quoi, hein, qui n'ont rien compris au monde. C'est pas du tout ma position, moi, dans ma vie.
Alors, comment il est né?
Le personnage? Ouais, il est. C'est ça qui est formidable dans l'écriture, et c'est pourquoi je suis allé au bout de ce texte, c'est parce que c'est fait comme un appel, comme quand on siphonne un réservoir, il faut aspirer un petit coup d'essence d'abord, et puis le reste viendra tout seul sans effort. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai fait une promenade au contre-réservoir de Grosbois, qui est un lac artificiel dans les environs de Dijon, qui donne le théâtre principal de l'action qui se déroule dans Requin. Et voilà, donc j'ai d'abord décrit ce que c'était que cette espèce de zone balnéaire en pleine campagne bourguignonne. Et puis j'ai imaginé ce personnage, un personnage se noyant alors que tout le monde s'amuse autour. Étais-je plongé à ce moment-là dans une forme de torpeur, je ne sais rien, peut-être, je ne me souviens pas exactement. Mais c'est ce personnage se noyant que j'ai au milieu d'un lac artificiel que j'ai accueilli comme un dispositif littéraire et puis que j'ai essayé de faire grandir, quoi, un texte que j'ai essayé de faire grandir. Et en faisant grandir ce texte, j'ai imaginé les raisons qui pourraient faire que ce personnage se noyant finalement trouve là une bonne occasion d'en finir et ce paradoxe qui avait quelque chose pour moi de ces humoristiques fait un peu crée un petit peu la colonne vertébrale du roman, quoi.
Noir, c'est noir.
Oui, non, enfin, vous savez que dans ce roman, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour quand même. C'est un conte. C'est un conte noir. Il y a une forme d'humour noir, si on veut, mais disons qu'il ne s'en prend qu'à lui-même, quoi. C'est pas quelqu'un qui se moque des gens autour de lui. Un petit peu parfois. Mais c'est surtout.
Il y a des réminiscences de Quiberon aussi.
Ouais, j'ai déplacé un peu le. J'ai déplacé la toponymie, là, quand même. Il y a l'univers du port, il y a des éléments, en effet, qui sont extraits de mes expériences d'enfant. Voilà, qui viennent évidemment, qui ont contaminé le texte, naturellement, bien sûr. Des éléments biographiques, bien sûr, qui sont injectés dans le texte, mais qui sont transformés, amplifiés, décalés. Mais qui apporte une sorte d'étrier comme ça pour construire, créer un monde vrai, imprimé.
Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, merci à Élodie Royer, Corinne Amar, Samuel Bernard, Didier Lagarde, Anne Kobilac et Delphine Baudet. Vous écoutez France Culture. Bon après-midi.